On est en pleine séance de photographie avec Annick Daigneault. Bonjour Annick.
Enchantée.
Et Martine Asselin, bon, on aurait bien aimé l'accueillir, mais elle est au téléphone, au moins elle est avec nous d'une autre façon. Martine, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes avec nous pour nous parler d'un projet qui vous tient à cœur. Vous avez travaillé fort pendant des années sur... ça a commencé par s'appeler autrement. Il y avait les pieds en haut.
Ça s'appelle toujours les pieds en haut. C'est
oui.
Juste que dans le fond, c'est devenu une collection d'œuvres.
Qui a changé.
Oui, qui a évolué. on a Matisse, qui est une œuvre en vidéo 360. Et désormais, on a Lou, qui est une œuvre d'animation en 2D, 3D.
OK, d'accord.
Interactive.
Vous en parlez avec beaucoup d'enthousiasme et je vous comprends, mais on part de zéro parce que il y a plusieurs personnes qui sont à l'écoute qui ne savent pas exactement ce que c'est. Mais j'aimerais commencer par un bravo parce que vous venez de remporter un prix.
Oui.
Le prix Écran canadien 2023 pour la meilleure expérience immersive œuvre non fictive.
On est très fiers du
bravo.
Chemin qu'on a parcouru et on est reconnaissante. Ben, qu'à la fois l'industrie, que le public vienne maintenant à la rencontre de notre œuvre.
À la rencontre de votre univers,
exact.
De l'univers de vos deux enfants. Alors, on met les choses un peu en contexte, là. Annick, ben, présentez-vous, Annick, d'abord, qui est en studio, puis ensuite, ce sera Martine.
Parfait. Donc, je suis Annick Daigneault, je suis une artiste et médiatrice culturelle en art numérique, entre autres. J'ai une formation, un background en théâtre et en événementiel. Et le projet sur lequel je travaille avec Martine depuis aujourd'hui 8 ans.
Est... Je rapproche le micro.
Aucun problème.
pour qu'on vous entende davantage.
D'accord. Donc, d'habitude, j'ai un enjeu où est-ce que je parle trop fort, puis les techniciens...
Ah,
en...
C'était pas cet enjeu-là.
Ils trouvent que je pique. OK, excellent. Donc, avec Martine, on travaille sur ce projet-là depuis 8 ans et on s'est rencontrés suivant l'écriture d'un billet de blog que j'avais publié sur l'inclusion, la réussite en fait collective de l'inclusion de notre fils Maël à l'école alternative Rose des Vents. Ensuite, son chemin scolaire a été parsemé de défis, évidemment, mais c'est comme ça que Martine et moi avons fait la connaissance l'une de l'autre et depuis, on est devenu un vieux couple.
Un vieux couple! C'est donc romantique. Oui. Alors donc, Annick, vous êtes la mère de Maëlle qui a maintenant 15 ans et Martine, la mère de Théo qui a aujourd'hui 14 ans, si je ne me trompe pas?
Oui, exactement. Puis il allait à la même école que Maëlle à l'époque. Fait que moi, j'avais lu le petit billet d'Annick puis je l'avais contacté en fait parce que je voulais savoir comment ça se passait pour son fils. Parce que ça me faisait peur, l'école quand même. Tu sais, je me demandais comment ça allait se passer puis ça. Puis, assez vite, quand on s'est rencontrés, là, j'ai affaire d'aller prendre un café, on a jasé de nos fils, on a jasé de la vie, puis on a vraiment fait comme, OK, on aimerait ça, hein, que nos enfants soient mieux compris et inclus. Puis comme moi, j'ai un background de cinéaste, j'ai fait beaucoup de documentaires, du court-métrage fiction aussi, de l'animation, puis Annick, elle vous a parlé de son background, fait que deux filles créatives ensemble, ça fait, ben, on va créer une œuvre. On va essayer que les gens comprennent mieux nos fils et les autres personnes autistes. Puis nous, on va aussi essayer de mieux les comprendre à travers cette œuvre-là parce qu'on n'a pas nécessairement la même façon, on n'a pas les mêmes caractéristiques que nos enfants. Fait que, tu sais, des fois, c'est même complexe pour un parent de comprendre exactement tout ce qui peut se passer quand on a une sensibilité au monde qui est complètement différente. Fait que c'était vraiment une œuvre d'empathie là, de nous-mêmes envers nos enfants en même temps qu'on voulait aussi la partager pour que d'autres... Et c'est même sentiment empathique et de compréhension là, par rapport à l'autisme un petit peu plus. T'sais.
Et l'œuvre a été dévoilée quand exactement?
Pour la première fois en festival au Rendez-vous international du documentaire à Montréal en novembre dernier.
Comment elle a été reçue?
Ben, très positivement, on avait des beaux line-up.
Oui, les gens étaient au rendez-vous.
Et oui, les gens sont au rendez-vous du documentaire de Montréal Anyway. Et donc, on était vraiment reconnaissants d'avoir un espace pour présenter le fruit de notre travail pour la première fois à Montréal. Sinon, la façon dont on diffuse l'œuvre, c'est on se promène dans les milieux scolaires, les entreprises, les organismes, en festival présentement, justement. On se promène un peu, on a la joie de voyager avec notre œuvre présentement. Et c'est le lancement officiel cette semaine.
Demain, à la SAT.
Demain, exact. On est bien dans le jus. Demain à la SAT. Et samedi, c'est à la Place des Arts. Et pour le moment, on affiche complet.
Ah oui, bravo. C'est encourageant tout ça.
Oui, on sera aussi au sommet de l'animation de Montréal au mois de mai.
Et puis, vous allez être à Québec également le fin avril, dis-je bien, le 29 avril au Musée national des Beaux-Arts.
Exactement,
Québec.
Oui. Et les gens peuvent passer par la plateforme du musée pour réserver une place.
Bon, alors les gens qui vont vivre l'expérience, là, comment ça fonctionne? Vous donnez des lunettes, parce que c'est la réalité virtuelle. Moi, c'est un monde que je connais pas vraiment. Alors, décrivez-nous votre projet, Martine.
Oui, bien, c'est un projet interactif. Alors, dès qu'on parle de réalité virtuelle, on a quelque chose sur la tête qui va réagir à nos mouvements de tête, déjà à la base. T'sais, fait que si on regarde à droite, bien, dans le casque, on regarde à droite aussi dans un environnement qui nous entoure complètement. On est vraiment plongé dans un monde à part, là, qui va nous permettre d'expérimenter quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si vous avez déjà mis un casque, mais vous voyez vraiment pas ce qui se passe dans votre environnement réel. Fait que vous êtes plongé dans un autre univers. Fait que déjà, là, nous, on vous plonge dans la sensibilité d'un personnage autiste qui s'appelle Lou. Donc, on est dans la sensibilité autistique de Lou à l'enfance et à l'adolescence. Puis comme spectateur, ben vous avez à prendre action, à faire des choses avec des manettes dans les mains qui viennent vos mains dans l'expérience. Puis vous avez des choses à accomplir. Vous interagissez avec des personnages, avec des objets pour interagir un peu à la façon de Lou. Donc, vous allez faire des choses, puis vous allez les vivre avec sa sensibilité à lui. Donc, une sensibilité qui est distincte de votre sensibilité naturelle quand vous n'êtes pas une personne autiste. Vous allez aussi avoir à faire des mouvements et des gestes qui vont être les siens, donc son genre de façon de un coping mécanisme, là, comme un espèce de geste stéréotypique, par exemple, que notre personnage a, qui est de faire du flapping, là, de battre les bras, un peu comme un oiseau. Là,
oui, il fait ça dans quelles circonstances?
Ben, quand lui, c'est pour gérer ses émotions puis les stimuli quand il y a des. Quand il y en a beaucoup à gérer. Donc, vous êtes dans sa peau, des fois vous en avez beaucoup à gérer, puis vous allez voir que le fait de faire ça vous apaise ou vous aide à reprendre du contrôle sur votre environnement virtuel. Donc, vous commencez à mieux comprendre pourquoi certaines personnes autistes peuvent avoir ce genre de gestes-là.
Est-ce que vos fils respectifs, Annick et Martine, donc vos fils Maël ainsi que Théo, ont participé au projet?
Oui. En fait, à toutes les étapes du projet, pour nous, ça a été important de s'assurer que c'était une œuvre et un cheminement qui était inclusif. Donc, on a travaillé à toutes les étapes avec des personnes autistes, dont nos enfants, la voix du personnage en français et la voix du fils de Martine. Et mon fils a des, bien qu'aujourd'hui il soit verbal, un usage moins conventionnel de la parole. Donc, il a participé à sa façon pour enrichir l'œuvre et jouait un personnage neurotypique qui passe des commentaires qui sont dans le jugement, par exemple à l'école secondaire, ou encore portait sa voix avec des petits cris.
On entend, là.
On l'entend, exactement. Mais nos deux enfants aussi, Félix, la fille de Martine, et mon autre enfant, Maxine, ont aussi participé. C'est une œuvre non seulement inclusive, mais aussi familiale. On est porté par beaucoup d'amour dans ce projet-là. Ça en prenait beaucoup. Là, c'est devenu notre troisième enfant à chacune, Lou, dans le fond, et notre cinquième enfant en tout. Donc, c'est
mais
vraiment
Lou
un membre de la famille.
Existe pour vrai, là.
Ben, il existe pour vrai dans un casque de réalité virtuelle. Là.
D'accord.
Mais c'est devenu notre troisième bébé, là. C'est un membre de la famille.
Et c'est Maëlle, paraît-il, qui aurait trouvé le titre?
Les pieds en haut, ben dans le fond, c'est une expression que Maël utilisait lorsqu'il était petit. Il voulait avoir la tête en bas, puis qu'on l'aide à soulever ses pieds. Donc, t'sais, de se mettre la tête en bas ou de lever les pieds en haut, c'est comme finalement la même posture, mais énoncée d'une manière distincte. Et on trouvait que c'était, il y avait quelque chose d'enfantin, de naïf, pour illustrer le fait que dans une même situation, on peut avoir plusieurs perspectives et façons de voir.
Et Martine, pourquoi avoir décidé d'utiliser la réalité virtuelle pour créer les pieds en haut, Lou?
Ben, tu sais, le documentaire traditionnel, oui, ça peut nous rendre empathiques pareil, puis oui, ça nous permet d'en apprendre sur quelque chose. Ça reste que c'est un travail qui est plus intellectuel, on va dire. T'sais, on n'est pas à la place du personnage. T'sais, on peut s'imaginer qu'est-ce que c'est être dans sa situation, mais là, la réalité virtuelle, elle nous permet d'être dans ses souliers davantage, d'être au cœur de l'action et de vivre ces stimuli-là, de ressentir des émotions d'une autre façon. Puis ça s'inscrit aussi différemment dans notre mémoire puis dans notre expérience, tu sais. Fait que c'est vraiment intéressant de voir comment qu'on peut justement, voyons, excusez-moi, c'est bizarre.
Peut-être bondir sur
mi-maçonnerie. Vous m'entendez encore?
Oui, on vous entend toujours, bon, Martine.
Fait que c'est ça, en fait, c'est intéressant parce que ça devient plus incarné, puis ça s'inscrit autrement dans notre mémoire, puis ça nous fait ressentir l'empathie d'une façon différente. Donc, c'est vraiment, puis même juste le médium de se mettre dans une espèce de bulle, ça nous invite à changer de réalité puis de point de vue. Donc, il y a plein de choses qui militaient en faveur de ce mode d'expression-là, même s'il est moins répandu. En même temps, c'est intéressant parce que ça permet à des gens qui ne s'intéresseraient pas à la réalité virtuelle d'être intéressés à cause du sujet de l'autisme. Fait que, tu sais, c'est en train aussi de permettre à des gens de découvrir ce médium-là en même temps. On trouvait que c'était vraiment la façon la plus pertinente pour ce sujet-là.
On dit souvent qu'on retient 80% ou même un peu plus de ce qu'on expérimente et ce qu'on dit. Et c'est 8 fois plus là, t'sais, que quand on fait juste entendre ou voir un contenu. Mm-hmm. T'sais, très rapidement pour nous, c'est devenu, là, t'sais, justement dans nos rencontres créatives, t'sais, au début du processus, on avait cette obsession commune qui était de vivre l'expérience de la sensibilité de nos enfants. Donc, tu sais, à travers cette démarche d'empathie, les rencontres avec les autres, les adultes, les adolescents autistes, on a pu se plonger nous-mêmes. On n'a pas tout mis ce qu'on a reçu comme témoignage. Et il y a plein d'histoires qui sont tellement riches de diverses situations qui nous ont été partagées par des personnes autistes. Il a fallu qu'on fasse des choix comme réalisatrice, mais comme Martine le nommait, le fait d'incarner, on trouvait que c'était un médium qui était approprié et qui était en soi narratif, qui portait notre message et notre intention d'autrice plus loin.
Vous dites que vous n'avez pas tout exploré. Est-ce que ça veut dire que les pieds en haut pourraient se poursuivre avec d'autres réalités autistiques?
Oui, bien, on travaille présentement sur le scénario de la vie adulte. La forme sera fort probablement bien différente de ce qu'on a créé avec Lou. Mais c'est pour ça que finalement, les pieds en haut, on appelle ça davantage une collection d'œuvres pour le moment, parce qu'à travers les années, on a réalisé des projets avec des groupes d'adultes autistes qui ont pris un espace virtuel de parole pour, c'est ça, exprimer comme leur perception du monde, leur sensibilité, leurs défis, leurs forces, pour exprimer leur créativité, tout simplement. Puis ensuite, avec Matisse en vidéo 360, avec Lou maintenant, tu sais, en 6D, où est-ce qu'on engage l'utilisateur-utilisatrice. Puis maintenant, on verra vers où on va tendre en réalité virtuelle et quel usage on en fera. Mais ce qu'on explore présentement, c'est l'écriture d'un scénario pour la vie adulte.
Bon, alors, il y a les pieds en haut Matisse, les pieds en haut Lou. Donc, si je comprends bien, les pieds en haut Matisse, c'est l'enfant.
C'est un enfant aussi, c'est juste que c'est en vidéo 360, donc il y avait des comédiennes et des comédiens. Et là, on a des comédiens et comédiennes, mais on les entend, on les voit pas, des animés.
Ouais, alors, parce qu'il faut comprendre que les pieds en haut, ça fait longtemps là, qu'on est là-dessus, ça fait 8 ans. Fait qu'au début, on a fait un premier prototype, une première œuvre qui était Matisse, qui était comme pour montrer que ça marchait. T'sais, il faut comme démontrer qu'on a une idée en tête puis qu'elle va marcher. Là, fait que c'était ça. Puis finalement, on l'a vraiment comme après ça, on en a fait quelque chose qui a existé aussi pour le public puis qui est allé dans des écoles parce que il y avait tellement un gros besoin que les gens disaient, hey, on veut l'avoir, cette œuvre-là, tout ça, puis on l'a sorti à ce moment-là. Mais après ça, Lou, ben là, c'est notre œuvre actuelle, c'est l'œuvre la plus récente, puis c'est celle qu'on voulait faire au départ, là, tu sais, qui est un peu plus complexe, puis qui va aussi, qui donne d'autres genres de ressentis et de véhicules là, autistiques là, quand on est dans l'œuvre. Fait que, tu sais, après ça, l'adulte, ça va encore nous emmener une coche plus loin parce qu'être enfant, être adolescent, c'est une affaire. Être adulte, c'est une autre affaire. Tu sais, fait qu'un adulte autiste a d'autres genres de défis qu'on veut aussi adresser. Fait que c'est ça. C'est pour ça que ça prend plusieurs heures pour réussir à faire
plusieurs années de travail pour le financer.
Oui. Est-ce que vous pouvez rester avec nous parce qu'on ferait une petite pause musicale, une chanson de Rosie Vallant, Chaos, et puis on va se retrouver avec Annick Daigneault et Martine Asselin qui nous parlent du projet Les pieds en haut. Lou, toujours en compagnie d'Annick Daigneault, mère de Maëlle, 15 ans, une personne autiste qui semble très, très sympathique. Comment vous le décririez, votre enfant, Annick?
J'ai deux enfants extraordinaires que j'appelle mes coloriers. Donc, oui, Maëlle, c'est un bel humain, immense, extrêmement chaleureux, vraiment joyeux, jovial. Il est contagieux dans son énergie. Il y a une belle douceur. humaine, beaucoup de curiosité.
C'est beau, ça, c'est touchant. Martine, vous êtes aussi mère de d'autres enfants à part Théo. Mais Théo, pour vous, qu'est-ce qu'il représente? Comment vous le décririez?
Il y a Théo puis sa sœur Félix. Puis Théo, c'est mon aîné. Comment je le décrirais? C'est un garçon qui est très verbal. Tu sais, c'est un grand orateur, Théo. Quand il parle, on l'écoute. Il a vraiment beaucoup de facilité à s'exprimer. Il est très analytique. Il voit beaucoup de choses que moi, je ne voyais pas à son âge, tu sais, par rapport au fonctionnement de la société. Des fois, ça le fâche. Des fois, il trouve que c'est mal fait. C'est un gars qui relève beaucoup les incohérences du système.
Ah oui.
Ouais. Fait que, puis, parallèlement aussi, c'est un garçon qui est hyper créatif. Il veut faire des jeux vidéo plus tard, donc raconter des histoires.
Ils vont marcher un peu dans vos pas.
Peut-être, c'est possible. Puis, tu sais, avec sa sœur, c'est super là, ce que ça génère. Ils sont très, très différents. Puis, il y a un beau partage. Tu sais, des fois, of course, c'est un frère puis une sœur. Là. Des fois, ils se pognent.
Mais oui, c'est normal.
Ils se pognent. Mais ils apprennent beaucoup l'un de l'autre, je pense. Ils apprennent énormément de l'un de l'autre. Puis, c'est beau de les voir aller.
Et Martine et Annick, vous avez aussi appris beaucoup, beaucoup l'une de l'autre et ça marche bien votre relation. Vous disiez que vous étiez comme un vieux couple, c'est Annick qui disait ça au début. Vous avez voyagé avec votre projet, vous avez présenté l'expérience virtuelle au festival South by Southwest, qui est un prestigieux festival, aussi au One World de Prague. Donc, ça vous amène un peu partout dans le monde. Comment ça réagit? C'est quoi la réception en général des publics que vous rencontrez?
On a une réception qui est assez sensible et accueillante, chaleureuse partout jusqu'à maintenant où on se promène avec l'œuvre. Le fait pour moi de me promener, d'avoir testé avec Martine, puis aussi même avec une personne autiste dans différents ateliers, workshops, déjà l'œuvre, je me sentais déjà proche du public. Là, le fait de le vivre ensemble, en équipe, par exemple, dans le cadre de festivals, puis dans des milieux culturels où c'est pas nécessairement des gens qui sont touchés par le sujet qui viennent essayer et que certains enlevaient le casque et pleuraient, tu sais. Puis il y en a des gens qui étaient, tu sais, dans d'autres types d'industries créatives qui sont venus, par exemple, à South by Southwest et qui ont eu, c'est ça, des réactions très vives. Et on a reçu beaucoup de témoignages d'amour, mais aussi des témoignages ultra sensibles, tu sais. Puis on s'assoit avec les gens après, là, tu sais. Fait qu'il y a une part, nous, on a notre vision de ce projet-là et ce qu'on prétend avec la réalité virtuelle, c'est que ce n'est pas un médium qui favorise la distance, mais c'est un outil qui est créateur, favorable à la création de ponts. Mm-hmm. Donc, pour nous, c'est super important d'humaniser l'objet en étant présente avec l'œuvre le plus possible, bien que l'œuvre pourra voyager par elle-même ou encore être achetée par licence. Le plus possible, on souhaite voyager et qu'il y ait une rencontre entre personnes autistes et personnes neurotypiques. Donc, la réaction est vraiment bonne et touchante pour la plupart du temps.
Qu'est-ce qui nous manque comme société pour bien intégrer les personnes neurodiverses?
Est-ce qu'il vous reste une heure?
Malheureusement, non, Martine, mais je suis certaine que vous êtes capable de répondre en quelques minutes.
Veux-tu commencer? Je vais rajouter.
Bien, ce qui nous manque, je pense, c'est de comprendre que l'inclusion, c'est différent de l'intégration ou de l'adaptation. Tu sais, on intègre beaucoup dans notre société, c'est-à-dire qu'on va prendre les gens, on va essayer de les rendre suffisamment conformes pour qu'ils rentrent dans quelque chose qui existe déjà, au lieu d'essayer de voir comment on pourrait à la fois la personne autiste et les autres s'adapter pour créer une vraie rencontre, puis une inclusion d'égal à égal. Il y a toujours, comme on dirait, la responsabilité de l'adaptation, moi je trouve qu'elle revient énormément aux personnes autistes. C'est difficile, c'est de comprendre ce qui est attendu de toi quand t'es pas configuré de la même façon. Fait que, tu sais, je pense que les échanges doivent être très clairs et on doit vouloir les faire, ces zones de discussion-là. Alec, tu peux continuer?
Mm-hmm. Je suis absolument d'accord avec ce que Martine vient de nommer. T'sais, le handicap, c'est une responsabilité partagée. C'est pas à une personne qui se retrouve dans une situation qui est distincte de la norme. Puis cette norme-là qu'on questionne beaucoup, Martine et moi aussi, c'est juste dans notre famille, nous, on est 3 neuroatypiques. Donc, 3/3. Mais tu sais, avec le papa, il y a aussi un autre format familial. Mais tu sais, je veux dire, chez nous, dans notre maison, les enfants et moi. Donc, le handicap, pour nous, c'est ça, c'est une réalité à laquelle on doit ensemble s'adapter. Et c'est pas... je trouve que ce qui manque, entre autres, c'est une reconnaissance positive de la neurodivergence et des différentes façons d'être un être humain. Tout le monde contribue à enrichir la société à sa façon et on l'échappe quand on ne soutient pas davantage l'inclusion des personnes qui sont en situation de handicap ou les personnes autistes. Il y a une compréhension aussi. On a besoin de ralentir. Ce qui nous manque, c'est de prendre le temps d'aller à la rencontre et d'accepter qu'on ne fonctionne pas au même rythme et que c'est riche. On fait pas ça par altruisme ou pitié. Non, c'est un bénéfice collectif, l'inclusion. Et le fait d'être... l'arc-en-ciel serait plate s'il était tout jaune. c'est beau quand c'est coloré, puis c'est pas juste de la poésie, cette image-là. C'est nécessaire que, comme société, on se donne les outils, on se donne les moyens, qu'on allège les classes, qu'on réduise les ratios, qu'on se donne les moyens au niveau de notre éducation pour s'assouplir comme personne neurotypique, pour mieux comprendre et mieux inclure, pour que ces adultes-là soient des citoyens à part entière rendus à l'âge adulte.
Annick Daigneault, c'est fort éclairant ce que vous venez de nous dire. Un témoignage qu'on entend souvent, puis on espère que les gens vont finir par être ouverts à la différence, entre guillemets, parce que tout le monde est différent. Hein? Et merci pour ce beau projet qui fait avancer les consciences. Les pieds en haut, loup. Je parlais avec Annick Daigneault et avec Martine Asselin. Et si vous voulez participer à ce projet, ça sera présenté notamment à la Cinémathèque québécoise les 13 et 14 mai. Il y a aussi à Québec, je le disais tantôt, au Musée national des beaux-arts du Québec à Montréal. C'est complet, mais il va peut-être avoir des supplémentaires. Bonne suite des choses. Merci à vous, puis bravo encore pour le prix Écran canadien.
Merci. Vous pouvez nous suivre aussi via lespiedsenhaut.com pour avoir les informations.
Merci.
Merci.
Merci.